C'est toi qui as les clés ?
Ah oui, elles sont là.
Design, cinéma, scénographie, peinture, architecture, la cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
Bonjour et bienvenue dans La Cabane, l'émission culturelle et artistique qui parle d'art sans complexe. Je suis encore et toujours Harold Buffetot et accompagné d'Émilie Lecoq.
Salut Harold.
Est-ce que ça va bien en ce début d'année 2020?
Bah ça va bien.
21.
Ça va bien, mais je sais pas si ça va aussi bien que toi parce que là, je sais pas, je sens qu'il y a du peps en tout cas.
Ah là, c'est la journée de la forme. Hein.
Ah oui.
Nous sommes accompagnés aujourd'hui par deux personnes.
Oui.
Notre invité principal qui est Roman. Bonjour Roman.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien.
C'est la
aujourd'hui.
Question obligatoire à chaque
ouais.
fois. Comment ça va? Ça va?
Ouais, ça va.
Top.
Ça va.
Et une habituée de la cabane qui est Ariane. Bonjour Ariane.
Salut les doudous.
Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour cette émission qui va être sous le thème, sous la thématique que Roman va nous insuffler?
Bah oui, hein. Enfin, oui, on est prêt. Enfin,
on est prêt. Alors, Roman, tout le monde se pose la question, mais qui est cette mystérieuse personne? Qui es-tu, Roman?
Eh bien, moi, j'ai 22 ans. Je suis comédienne. C'est trop bizarre de le dire parce que j'ai eu mon diplôme de conservatoire en juin. Et...
Mais du coup, tu es comédienne.
Mais oui, je suis comédienne. Mais
c'est la première fois que tu le verbalises ou...
Non, je le dis. Mais à chaque fois, je ris un peu intérieurement. Et je me dis. Enfin. J'ai pas encore
assimilé que t'étais comédienne.
Ouais, et puis j'ai pas encore vraiment créé ou acté des choses qui font que ah, ça y est, chez les grands. Il y a eu les confinements, il y a eu plein de choses qui ont fait que. Bah, je vous ai rencontré en fait auparavant et puis après les choses se sont accélérées et maintenant je suis avec vous pour Mille et tes paillettes. Mmh. Donc ça c'est.
On réexpliquera ce que
ouais,
c'est.
On en reparlera. Donc j'ai fait 3 ans de conservatoire à Nantes de théâtre où j'ai pu faire de la danse, du chant. On a abordé plein de choses. J'ai fait un peu de mise en scène aussi. Ça a été très, très intense, hyper fort. J'étais contente que ça s'arrête aussi parce que 3 ans, en fait, on ne dirait pas au conservatoire, mais j'avais que ça dans ma vie. Donc, c'était chouette quand ça s'est arrêté parce que j'ai pu faire d'autres choses. Donc, au conservatoire, on nous met la grande motivation et on nous pousse surtout à passer des écoles supérieures de théâtre. Et on nous dit, là vous êtes au conservatoire, on va vous préparer aux écoles supérieures pour que vous soyez des comédiens. Pendant ma première année, j'attendais, je regardais comment ça se passait, j'attendais de voir comment les uns et les autres envisageaient tout ça. Je stressais beaucoup de passer des écoles supérieures.
Toi, t'avais envie de les faire, les écoles supérieures ?
Je savais pas trop ce que c'était. J'avais l'impression que c'était très loin. Et en même temps, je me suis dit, bah tiens, si c'est encore une formation qui peut intensifier plein de choses, les connaissances, les acquis, de l'aisance, pourquoi pas. Donc ça a été plutôt la deuxième partie, dans ma deuxième année, début de deuxième année. En fait, il y a eu la pression à l'école qui faisait que j'étais là, mais en fait, si c'est ça encore pendant 3 ans après, je vais être trop malheureuse, en fait, ça va pas être marrant. Moi, ce que j'aime à l'école, c'était un laboratoire magique, quoi. On avait cette sécurité-là en étant à l'école, de tenter des milliards de choses et d'être encore dans un cocon, parce qu'on n'est pas encore... livrés à nous-mêmes. Donc c'est ça qui m'attirait peut-être dans les écoles, mais je me suis dit, oh là là, est-ce que j'ai encore envie d'y être 3 ans? Du coup, à ma dernière année, c'est ça que j'ai pas dit. À la fin de ma deuxième année, j'étais censée terminer mon cycle, passer mon DET, diplôme d'études théâtrales, et sortir de l'école. En fait, je suis rentrée dans ce cycle-là, j'avais 19 ans, et on m'avait dit que j'avais la possibilité de faire une troisième année si je me sentais encore un peu fragile, pas prête. Donc une troisième année bonus en passant ce DET donc à l'issue de ces 3 années. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en deuxième année, je n'ai pas eu de concours. Donc on ne m'a pas laissé partir. Ça, on m'a dit, vas-y, reste. C'est bon, on te laisse encore en
reste, reste.
Et du coup, je suis restée. Et là, j'ai passé mon DET dans un cadre très particulier. Nous étions tous confinés. Donc c'était à la radio. On a fait un examen à la radio. C'était une super expérience. Début de cette dernière année, j'avais la sensation qu'à l'issue de cette année-là, ça allait être, pas la fin, mais ça allait être une étape que j'allais franchir, un aboutissement. Et qu'avec cette chose-là, j'allais déjà avoir un bagage et que je voulais concrétiser avec ce que j'avais là. Et que je n'avais pas forcément envie d'aller voir plus loin dans les écoles de théâtre.
Ouais.
Est venue plus de manière plus forte mon envie de faire de l'art thérapeute. En fait...
La thématique, c'est la thématique.
C'est notre jingle de thématique. Tu viens d'évoquer la thématique, donc on l'a lancé.
C'est
tout
incroyable.
Suite.
C'était tellement sorti naturellement cette thématique. Le jingle a dû sortir.
C'est juste ça, Émilie.
Merci.
C'est le jingle magique. Yes. Ok, donc l'art thérapie, c'est venu comment l'art thérapie alors?
Mais
dans ton parcours.
Avec le recul, je crois que l'art thérapie en soi, pour ce que ça représente et les choses que je mets en place pour y arriver, je pense que c'est assez récent. Je pense que ça s'est fait entre l'année dernière et cette année. Je parle en année scolaire. En fait, après le bac, j'ai fait 3 mois en psycho. J'ai fait une fac de psycho. Donc j'avais une envie, un truc en moi qui quand même essayait de toucher à l'autre, le soin, l'écoute. Il y avait quelque chose qui tirait par là. Après la fac, ça n'a pas du tout été mon truc. Je suis partie. Voilà. Mais du coup, là, avec la maturité que j'ai prise à l'école et au conservatoire, j'ai pu me dire, ah tiens, qu'est-ce que je fais de cet art-là qui me touche profondément, et comment je peux le mettre à profit, comment je peux le faire devenir un médium puissant pour améliorer la vie des gens, quoi. Et puis on m'a parlé d'art thérapie, et là j'ai fait wow, c'est cette idée. j'ai essayé de creuser, et puis j'ai trouvé des formations qui étaient proposées en France. Le grand débat, c'était est-ce que c'est certifié, est-ce que t'as un diplôme d'État à la fin, voilà, tout ça, parce que ça rassure. Et puis, j'ai eu la chance de discuter avec deux personnes. Une amie de ma sœur, qui, elle, est passée par la formation celle que j'aimerais faire. Et un mec, qui est le grand frère d'une amie, et qui a fait aussi la même école. Et donc là, j'ai pu partager avec eux. Ils m'ont raconté des super choses, les ambiances de promo, comment ça se passe, clairement, une école d'art-thérapie, comment c'est foutu. Et puis surtout, il y a eu l'étape... on va dire janvier-février, de dire à mes profs à l'école, moi les écoles c'est bon, c'est foutu, laissez-moi tranquille, je vais terminer mon année mais on ne me parle plus d'école, je n'en veux pas. Et ça a été l'étape, j'ai écrit un mail à ma prof pour lui faire entendre que voilà, c'était une importante décision.
Ouais, et un changement majeur dans ta vie.
Ouais.
Il y a un truc, nous on s'est posé quand on a pris conscience de la thématique il y a quelques temps, c'est de se dire mais en gros c'est quoi l'art-thérapie, tu vois, parce que maintenant, ça nous paraît évident parce qu'on en a parlé un peu avant. Avant de donner la définition qu'on a cherchée, parce que quand même, on a travaillé. Hein, quand même.
J'ai hâte de savoir.
Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est un petit tour de table, vu qu'on est 4 autour de dans cette cabane. C'est à peu près les premières impressions. Pour nous, c'est quoi la première approche de l'art-thérapie et c'est quoi la première image qu'on a de l'art-thérapie? Ariane, vu que tu es en face de moi.
L'art-thérapie, je dirais que c'est un moyen d'expression. Et cette expression soigne les individus qui pratiquent cette expression.
Déjà, dans art-thérapie, c'est assez pratique parce qu'il y a deux mots qui sont mis l'un à côté de l'autre, art et thérapie. Moi, j'aurais pris un peu la définition à l'envers d'Ariane, parce que j'aurais commencé non pas par le mot art, mais par le mot thérapie, en disant que c'est pour soigner grâce à une pratique, même si on en revient à peu près à la même idée. Mais c'est marrant parce que moi, dans ma construction, c'est vraiment à l'envers, mais je ne sais pas si ça change grand-chose. Mais soigné par une pratique artistique, je dirais.
La première image que j'avais eue, c'était vraiment le truc de... Il y a quelqu'un qui fait, par exemple, on fait un dessin, et il y a un thérapeute qui est là et qui dit, voilà, dans ton dessin, t'as... Non, c'est vraiment la première image. Dans ton dessin, du coup, là, t'as ça. Un peu comme le test de Rorschach, là, avec les taches d'encre.
Oui, avec les taches, oui.
Et où on montre des taches d'encre et on dit, qu'est-ce que tu vois là? Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Et du coup, l'art-thérapie, j'imaginais un truc comme ça, où par exemple, tu fais des gribouillis sur un dessin. C'est horrible de dire ça comme ça. Et après, tu vas voir le thérapeute qui te dit, ok, t'as fait ça, qu'est-ce que ça représente pour toi?
Une lecture, un peu.
Ouais, une sorte de lecture. Okay. Et ça, c'était la première image que j'avais de l'art-thérapie. Et du coup, toi, c'était quoi le premier sentier, le premier axe
Oui, en essayant de me détacher de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu... Je crois assembler les deux choses qui me faisaient kiffer. Il y avait les deux mots et ça pouvait être enfin le métier qui pouvait me correspondre parce qu'il y avait les deux trucs ensemble.
Mais tu savais pas quoi? Tu n'avais pas une image précise?
Si, je dis ça par là parce que je suis un peu trop... J'ai la définition, du coup, je crois que c'est plus difficile de s'en détacher, mais c'était la sensation première, c'était il y a de l'art, donc il y a toutes les choses que je sais ou que j'ai envie de faire. Il y a la danse, il y a le corps, il y a les textes, le théâtre, après on verra, il y a plastique et tout, mais il y a la thérapie. Alors il y avait vraiment les deux choses, et je pense qu'il y avait je pensais que c'était le moyen de soigner en faisant appel à ses talents.
À tes talents, du coup?
Non, au talent de la personne.
Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Ok, c'est marrant cette notion de talent.
Ouais, et puis en le disant, je me dis non, parce que le talent, c'est hyper ça donne une valeur. Donc c'était pas ça. Mais...
C'était pas talent. Mais bon.
Mais c'est difficile.
C'est ta définition d'avant.
Ouais.
Donc,
maintenant, t'as évolué. Trop, maintenant.
Ouais. C'est aussi penser que tout le monde peut avoir un talent.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vu d'une manière hyper bienveillante. Ouais, peut-être c'est ça.
Ouais, je pense qu'il y a un truc. Ouais, il y avait un truc que j'avais envie de débunker sur l'art-thérapie, c'est de dire, mais on en reparlera après. C'est de dire que, en fait, quand on parle d'art-thérapie, j'ai l'impression, en première vue, que c'est fait surtout pour les gens qui ont une créativité ou une approche artistique. Mmh. Et ça, je pense que ce n'est pas le cas. Et on verra après, dans la suite de l'émission, qu'effectivement, je pense que ça ne l'est pas. Et pour rebondir sur la définition, donc, qu'est-ce que c'est, du coup, l'art-thérapie, d'après le dictionnaire ? Mmh. Donc, l'art-thérapie est une méthode visant à utiliser le potentiel expressif artistique et créatif d'une personne à des fins thérapeutiques ou de développement personnel. Mmh. C'est très large. C'est très compliqué, mais on va apprendre à savoir, à creuser un peu plus ce que c'est l'art-thérapie. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu nous as parlé d'une formation. Du coup, tu as été sélectionnée dans cette formation.
Alors en fait, j'ai été sélectionnée dans cette formation, mais pas dans celle exactement que je voulais. En fait, et du coup, ça va nous en apprendre un peu plus aussi sur le métier. En fait, j'ai postulé un cycle art-thérapie dans une école qui s'appelle l'AFRATAPEM. Il faudrait rechercher ce que ça veut dire exactement. L'antenne, elle est à Tours, il y a à Grenoble et à Lille. Et c'est en relation avec les facultés de médecine de Tours, de Lille et de Grenoble. Donc, c'est tout à fait en lien avec la recherche, les neurosciences et la médecine. J'ai postulé pour ce cycle et on m'a appelé et on m'a dit « Mademoiselle, vous n'avez pas de bac plus 2, on ne peut pas vous accueillir dans ce cycle-là. » Mais on vous propose une classe qui commence dans 2 semaines, qui vous permettrait d'emmagasiner des capacités d'intervenant en animation artistique spécialisée. Et j'ai dit oui. Parce qu'en fait, j'ai beau avoir mon bagage artistique, j'ai beau avoir mon BAFA, enfin, en fait, là, l'idée d'animer un atelier, que ce soit pédagogiquement pour amener à un savoir-faire ou animer pour le loisir, il faut avoir un bagage, il faut aussi avoir les outils pour l'amener, et aussi le public. Enfin, il faut y réfléchir et même si on peut avoir des sensations et des choses un peu innées en nous, il faut savoir les organiser. Et du coup, j'ai dit oui, et je fais ça cette année. C'est une semaine par mois à peu près.
Trop bien.
Et j'ai commencé cette semaine, je suis rentrée hier, et c'était super.
Ah ouais,
c'était impressionnant. On a fait une semaine où on a revu toute l'histoire des arts et de la musique en 5 jours. Donc vous imaginez comment ça devait être condensé.
Ah oui.
Mais ça a permis... une sorte de... Ouais, hein, on a balayé tout ça. Oh, je casse tout. On a balayé tout ça avec quand même de la précision. Je salue d'ailleurs la performance de nos formateurs. Et ça permet à chacun, selon ce qu'on savait ou non, d'aller fouiller après, d'aller retourner dans les endroits qui nous ont touchés. Et surtout, moi, le lycée, pour le coup, c'est pas hyper loin. Ils avaient 65 ans et l'histoire de l'art, bon, ils en avaient... Enfin, il y en a, ils sont soignants. Enfin, ça peut être loin pour tout le monde. Et... Là, on n'a pas aussi tous les mêmes profils dans la classe. Un pianiste, 2 aides-soignantes. Il y a une nana qui faisait de l'économie, qui a tout arrêté, qui est peintre maintenant. Une meuf qui sort des beaux-arts. Enfin voilà, il y a de tout.
C'est assez diversifié. Hein.
On a tous à peu près l'ambition d'être art-thérapeute, mais on passe par là.
Mais il y a un peu 2 profils finalement, artiste ou soignant.
Ça peut souvent être...
Même celle que tu dis qui faisait de l'économie, je crois, finalement, elle est peintre, en fait. Elle se définit comme étant peintre,
donc elle fait
partie de cette catégorie plutôt art. J'ai l'impression qu'il y a la catégorie thérapie. Enfin, peut-être que je me trompe.
Non, c'est vrai. Ouais. En même temps, même un soignant qui veut se former, il faut qu'il ait une sensibilité. D'accord. Ou une pratique, ouais.
Ouais.
En tout cas, pour être art-thérapeute, il faut avoir une pratique. Pour être intervenant... Là, il faut avoir une sensibilité. Tu peux être plus souple. Et moi, j'aimerais juste vous parler d'un truc.
Oui.
Si vous savez que l'art-thérapie, il y en a 2 qu'on distingue. L'art-thérapie moderne et l'art-thérapie traditionnelle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans vos recherches.
Non, mais tu vas pouvoir nous en toucher.
Et du coup, la question que je vous pose, c'est Est-ce que vous pourriez savoir qu'est-ce que c'est la différence?
C'est moderne et...
Art thérapie moderne et art thérapie traditionnelle.
C'est le moment du piège.
Yes.
Ariane, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, je dirais que l'art thérapie traditionnelle a pris ses racines il y a plusieurs années. L'art thérapie moderne est un courant qui a émergé plus récemment. Voilà.
Elle se mouille pas.
Ouais, mais c'est juste, c'est juste.
Ouais. Je sais même pas les dates, donc c'est pour ça.
C'est peut-être dans la manière de pratiquer la pratique artistique. Peut-être que dans... Ouais, j'improvise. Dans la traditionnelle, on a une pratique plus... Je sais pas.
J'ai une question. Est-ce que ça change par rapport au médium qu'on utilise ou pas du tout? Ou vraiment, c'est une approche différente?
Je dirais que l'objectif et l'approche sont à nuancer, ouais, c'est ça.
Ah oui.
Les deux sont...
Peut-être que... Alors, je vais me mouiller aussi. Peut-être que l'art-thérapie traditionnelle, c'est pour soigner une maladie, ou genre, je sais pas, mentale ou physique. D'accord. Ou quoi que ce soit. Et moderne, c'est plus pour ce que j'ai lu dans la discussion, vers un développement personnel ou une approche du soi.
Ok. Ah, c'est marrant. Et ben, en fait...
Pas du tout. Vous êtes...
Mais non, mais c'est marrant parce que moi, du coup, j'avais du mal à le comprendre parce qu'on m'en parlait beaucoup quand j'ai posé des questions aux art-thérapeutes. Tu verras la différence. Et en fait, je l'ai comprise réellement qu'il y a deux jours, on en a parlé. Du coup. Et en fait, donc l'art-thérapie moderne, c'est toujours un aspect scientifique sur les deux. Mais surtout, c'est prescrit par des médecins. Et l'art-thérapeute va évaluer le patient avec des moyens, donc en utilisant l'initiative du patient vers là où il va aller, donc libre arbitre du patient d'aller vers un art ou un autre, de la sculpture, modeler, écrire, prendre un pinceau, voilà, selon la personne, la guider. Et à ce moment-là, l'art-thérapeute ne va pas interpréter le rendu ou ce qui va en ressortir, mais va le transmettre aux médecins pour que les médecins s'en inspirent pour ensuite améliorer le programme de soins. Et voilà. En fait, l'art-thérapeute est un... Et déjà, l'art-thérapeute doit toujours avoir une pratique artistique pour l'art-thérapie moderne. C'est un artiste avant tout.
D'accord.
Il va évaluer... C'est difficile d'expliquer.
C'est un passeur un peu, non?
Voilà. En tout cas, il communique aux médecins et il participe... Il participe à l'élaboration en communiquant les infos qu'il a retenues. Il ne va en aucun cas interpréter. Et la traditionnelle, elle appartient beaucoup plus au monde de la psychologie et de la psychanalyse. Et à ce moment-là, l'art-thérapeute, il n'est pas forcément artiste. Une utilisation de l'art qui ne va pas être à but d'accompagnement pour le bien-être ou le mieux vivre, mais vraiment, on va aller traiter, on va aller analyser, on va...
Plus comme les gribouillis dont parlait Harold.
Bah, peut-être
tout à
que
l'heure.
Ça peut se rapprocher un peu plus.
Les gribouillis.
C'était des gribouillis, non?
Mais il y a cette différence-là. Il y a cette différence-là. On ne va pas aller dans la psychanalyse
okay.
De la psychologie.
Moi, je crois avoir compris. Je ne sais pas ce qu'il en est de nos auditeurs ni des gens dans cette cabane, mais.
Voilà. Ouais, j'ai compris, oui.
Et du coup, vous pensez que ma formation, c'est l'art-thérapie moderne ou l'art-thérapie traditionnelle?
Moderne, je dirais.
Oui, carrément.
Moderne,
c'est
sans
bon.
Hésiter.
Je ne te vois pas trop dans voilà. Un truc traditionnel.
Mais... Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, même pour moi, ce n'est pas évident d'expliquer. Mais, c'est assez...
mais moi, avec ton explication, ça me renvoie à une information sur laquelle on est beaucoup tombé. Et c'est qu'on se rend compte que quand on creuse un peu sur l'art-thérapie, mais il y a un champ des possibles qui est immense. Quoi. Déjà, rien que la pratique artistique... peut changer d'une méthode à une autre. Même la personne qui a, par exemple, l'art thérapeute qui a une pratique artistique, par exemple, je sais pas, un peu plus plastique, et elle va pouvoir utiliser cette plasticité, mais comme elle veut, alors qu'une autre personne qui aurait la même approche artistique pourrait utiliser une autre approche. Après, les grands fondements de l'art thérapie, vous m'arrêtez si vous pensez que je me trompe, hein, mais j'ai vu qu'il y avait le théâtre. La danse, les arts plastiques, dont tout ce qui était genre sculpture, collage, et tout ça.
Mais il y a aussi la musique que t'as pas dit.
Et c'est vrai.
Et en fait,
je l'avais
c'est...
marqué, mais je l'ai pas
non, dit. Mais parce que je crois que c'est un des trucs qu'on entend pas mal. Musique, corps, donc ça va être théâtre, Théâtre, on va l'utiliser pour improvisation, en fait, parce qu'on ne va pas aller monter des pièces de Shakespeare. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est vraiment la base de l'improvisation, le corps. La danse, ça va être mélanger le corps et la musique, le rythme. La musique, ça peut être les rythmes, le chant. Voilà. Et puis les arts plastiques, évidemment. Donc toutes les matières, les couleurs.
J'ai quelque chose à vous proposer, vu qu'on a un peu entamé un petit peu qu'est-ce qu'était cette art-thérapie. Moi, je suis allé à la rencontre il y a une semaine, d'une fille qui s'appelle Myriam Boubli, qui est art-thérapeute à Nantes.
Yes.
Et donc, c'est pareil, en fait, on est un peu passé par la même étape de réflexion et je lui ai posé des questions sur sa pratique. Et la première question que je lui ai posée, c'était évidemment, qu'est-ce qu'est l'art-thérapie et qu'est-ce qu'est une art-thérapeute ?
Alors, de manière très simple, c'est juste proposer une manière de s'exprimer qui soit différente du langage, donc en passant par des médiations. La mienne, c'est le théâtre et la marionnette. Voilà, que la personne, elle ait un support d'expression qui lui permette peut-être de verbaliser derrière quelque chose, ou ça permet de faire émerger des choses quand elle est dans un processus de création. Être art-thérapeute, faut être un peu mégalo. Non, mais alors, du coup, l'appellation art-thérapeute, je trouve que c'est un peu... Je suis artiste, je suis thérapeute... Il y a un côté, pour une formation de 2 ans, qui sont pas toutes, il y en a quelques-unes qui sont critiquables. Pouvoir se dire art-thérapeute, moi j'ai toujours eu du mal avec ce mot. Je dis plutôt que je suis intervenant de théâtre. J'ai l'impression que c'est aussi fourre-tout, quoi, que du coup c'est aussi une mode, l'art-thérapie. Mmh. Et qu'on sait pas vraiment bien ce que c'est d'être art-thérapeute.
Ça nous laisse une vision assez différente, mais elle est un peu critique sur ça. Et c'est,
ouais, mais c'est hyper intéressant.
C'est hyper intéressant.
Très différente de ce qu'on a dit, tu dis.
Un peu, dans le sens où elle est un peu rentrée dans le dur du style, faut être un peu mégalo pour être art thérapeute, parce qu'elle le vit aussi.
Mais je trouve qu'elle est, c'est très intéressant ce qu'elle dit, parce que en effet, c'est un peu art thérapeute, c'est lourd quand même, c'est vrai. En plus, on dit les artistes. Les médecins. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même deux mots. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. C'est aussi un peu comme tous les métiers qui ne sont pas très reconnus, qui sont, on va dire, des alternatives médicamenteuses et tout ça, et qui font partie de tous ces corps de métiers-là. Et qui, du coup, tout le monde a son avis sur ces métiers-là. Et les formations, du coup, évidemment, ne sont pas forcément des... Enfin, il y en a beaucoup et c'est pas évident de faire son choix aussi pour se former.
Mais d'ailleurs, elle, par rapport aux formations et au parcours qu'elle a suivi, je lui ai aussi posé cette question. Donc elle a commencé par faire de l'art de la rue à l'âge de 15-16 ans. Et elle m'a expliqué que c'était un truc qui l'avait limite sauvé la vie, quoi. De passer dans la méthode artistique, elle était limite passée par une autothérapie. En passant par là, elle a dit que ça l'a un peu sauvée. Elle serait peut-être tombée dans la drogue ou dans un truc pire, tu vois.
Ouais, quoi. Ok.
Et après, elle a tenté de faire des écoles de théâtre, Mime Marceau. Et elle en parle justement.
Et Mime Marceau, j'ai été prise là-dedans. Où mon père me dit rapidement, t'es pas une gosse de riche. Enfin, qu'est-ce que tu fais après 3 ans de Mime Marceau qui coûte 20 000 balles. Enfin, voilà. Donc, je suis allée en fac de philo. Sans trop savoir pourquoi, j'aimais bien la philo, j'étais à l'école de cirque à côté, et je suis rentrée au conservatoire de théâtre. Et là, il y a eu une espèce d'évidence, parce que je faisais... j'avais déjà construit ma pensée politique, où j'étais quand même assez engagée sur des questions sociales, et j'étais animatrice, et j'aimais les gens, profondément. Et qu'à un moment, il y avait une évidence d'avoir envie d'allier l'art et le social, en fait. Ou être juste artiste, d'une, ça me faisait peur, j'avais pas le coussin économique qui me permettait de me dire je vais faire 3 ans d'école et puis 3 ans d'école pour faire un clip peut-être un jour ou une pub. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'entre-soi, un milieu où j'avais pas de sentiment d'appartenance dans le théâtre. Et puis c'est beaucoup plus facile d'être derrière que sur scène. Enfin, je suis plus à l'aise en étant prof, intervenante extérieure. Ouais.
Et après ça, ce qu'elle dit pas, ce qu'elle m'a dit après, c'est qu'elle a fait du coup une formation d'art-thérapie à Paris 5, donc pendant 2 ans aussi. Okay. Donc la première année, elle, elle prenait toutes les matières, donc on parlait de médium, elle analysait tous les médiums et ce genre de choses. Et après, la deuxième année, ils développaient un peu leur propre pratique artistique pour pour exercer leur art thérapie.
Ça me parle beaucoup ce qu'elle dit.
Ouais.
En fait, je l'ai pas vraiment exprimé, mais quand elle d'additionner le social avec le social, je dis souvent que j'avais envie d'être utile. Parce que ben je pèse mes mots, mais pour moi là le théâtre on pourrait dire ça sert à rien tout de suite là, enfin tu vois, mais en même temps je le crois pas du tout parce que je crois que c'est fondamentalement, je pense que c'est ce qu'il provoque qui est nécessaire plus que ce qu'il est. C'est hyper politique de dire ça maintenant. Parce que...
on est en plein dans des questionnements actuels. Mais d'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, si cette question vous intéresse, on vous invite à écouter la cabane, la troisième émission de La Cabane, où on traitait justement de cette question, l'art est-il essentiel ? Voilà, vous aurez notre avis à nous. Donc Romane, on sent que tu marches un peu sur des œufs.
Parce que évidemment que je veux que nos théâtres réouvrent. Voilà. On n'a pas commencé, mais c'est...
Mais elle parle aussi d'un entre-soi. Voilà. Et je pense que c'est aussi ça. Moi, en tous les cas, j'ai vraiment une vision du théâtre ou de l'art qui peut être adressée à tout le monde, que tout le monde peut comprendre. Bien sûr, il y a des lectures différentes. Quand une œuvre me touche, c'est que je sens sa profondeur. Et sa profondeur, c'est différents endroits de lecture. Pour que tout le monde puisse lire l'œuvre à sa manière. Quelque chose qui est un peu trop ésotérique, quoi, qu'on n'arrive pas à attraper, on est obligé d'avoir une explication. Bah, moi, ça me touche beaucoup moins, même si c'est reconnu comme une grande œuvre.
C'est imperméable, quoi.
Voilà.
Oui, l'entre-soi, je suis bien d'accord. Et même dès l'école. Des groupes de copains qui font que du théâtre. Après, moi, c'était cet art-là, tu vois. Ça, mais en tout cas, les théâtreux, quoi. Enfin, il y a un truc où... Mais on dit même dans les groupes de copains, quand il y a un théâtreux qui ramène toute sa bande de potes, bah, ils ouvrent leur gueule, ils parlent fort et les autres se taisent, quoi. Enfin, il y a un truc qui est hyper cliché, mais qui existe vraiment. Et cet entre-soi-là, je crois, me gavait profondément. Et moi, j'avais besoin de sortir de ça, parce que je ne suis pas que ça et que c'est quelque chose qui est important, mais il y a d'autres choses.
Mais elle, je pense que c'était pareil, elle est passée dans le même type d'approche. Comme tu le dis, genre, ça a dû la gaver aussi, ce genre d'entre-soi et tout. Et elle a quand même voulu garder cette branche artistique. Et du coup, elle pratique l'art-thérapie en groupe sur des pratiques artistiques théâtre, dans l'improvisation, dans la mise en scène ou la mise en situation de choses. Elle fait aussi des ateliers avec des marionnettes, où en fait, elle propose à ses... Donc, elle appelle pas ça des patients et tout, je lui ai posé la question, plus des visiteurs ou spectateurs, quoi, de créer eux-mêmes leur marionnette.
La marionnette, j'ai beaucoup travaillé avec la marionnette en psychiatrie, en IME, en IM pro, du coup, dans le handicap. Bah, je leur demande rien, je leur donne juste des matériaux pour fabriquer une marionnette. Je leur explique la technique de base, de gonfler un ballon et de faire du papier mâché dessus, et puis après... s'ils veulent faire un nez, des yeux, des oreilles, des cheveux, je leur mets du matos, quoi, différent. J'aime bien l'idée que chacun puisse faire vivre son imaginaire avec le matériel mis à disposition et du coup qu'il n'y ait pas un type de marionnette standard, et on a eu des résultats assez rigolos quand même. Le seul truc que je leur demande, c'est la carte d'identité de la marionnette, où je leur demande de leur donner un nom, un âge, un sexe et une anecdote.
Donc, suite à ça, en fait, moi, je trouvais ça incroyable. Mais il y a un truc à ce moment-là que je n'avais pas compris, et on peut le lier avec la première lecture que j'avais eue de l'art-thérapie. C'est que moi, j'avais quand même cette notion qu'il y a un truc fini à la fin. Genre, je lui ai dit, bah, il se passe quoi avec la marionnette après, quoi ? Vous faites quoi ? Et en fait, elle m'a dit, bah, en gros, y a pas... le but, c'est pas de finir quelque chose, c'est juste l'action de créer qui est justement le baume, quoi, le baume qui va soigner. Quoi. Et je lui ai demandé, suite après ça, mais est-ce qu'elle, elle perçoit l'évolution des patients ? Ou est-ce que, bah, du coup, ils reviennent ? Comment ça se passe ? Ils reviennent et tout ? Et si juste... Bah, ben, en fait, c'est juste qu'ils arrivent, elle leur fait faire un atelier, elle leur fait du bien, et puis ça s'arrête là. Et elle m'a répondu.
Alors, c'est pas moi qui leur fais du bien.
Enfin,
c'est eux qui se font du bien. Moi, je fais rien. Moi, je suis juste le médiateur entre eux et eux.
C'est déjà
pas mal. Eux, soi et soi, et soi et les autres, en fait. C'est vraiment le lien à soi et le lien à l'autre qui est travaillé. Et du coup, oui, je vois des évolutions parce qu'il y a de la confiance qui s'installe, parce qu'il y a un sentiment de sécurité aussi dans le groupe, parce qu'à un moment, quand le groupe il est constitué, on se retrouve tous les vendredis. C'est sur 20 ateliers à l'année et c'est un espace-temps qui est investi, l'atelier théâtre. Et des fois, il y a des choses qui émergent de la parole. À la fin de la séance, c'est possible qu'il y en ait un ou qui vienne me voir en me disant ouais, quand on a fait cet exercice, ça m'a fait penser à l'époque ou machin. Et puis, il me dépose un petit paquet de son histoire et je suis là pour ça. Mais en fait, je ne vais pas du tout les chercher là-dedans.
Ouais.
Si c'est déposé ailleurs, c'est aussi possible. Mais c'est l'intérêt d'avoir quelqu'un qui ne soit pas dans l'institution. Parce que ce qu'il va venir me raconter, il ne le racontera pas forcément à l'infirmier. Parce qu'en fait, à côté, je suis éducatrice et j'ai bossé aussi en institution en tant qu'éduc. Par contre, ce serait hors de question d'être aussi art-thérapeute. Enfin, de venir faire un atelier. Ouais, c'est compliqué de faire un atelier théâtre sur un créneau d'art-thérapie et que ce soit l'éducatrice qui vient de passer 2 heures à ranger la chambre avec toi qui anime l'atelier parce que le transfert n'est pas du tout le même, quoi.
C'est riche.
Ouais, elle parle d'un truc qui est très intéressant et que j'avais pas. Enfin, pareil, je sais pas vous comment vous l'aviez imaginé aussi, l'art-thérapie et les art-thérapeutes. Mais moi, j'imaginais vraiment art-thérapeute comme un médecin, quoi, qui vient, qui te suit un peu, mais en fait, c'est pas. Bah, elle dit que c'est elle, comment elle se considère comme art-thérapeute, c'est plus un passeur, quoi. Genre,
Un passeur, je suis trop d'accord.
Je trouve que c'est pas mal, quoi. Tu te reconnais un peu dans ta future pratique ou...
Mais, et puis le mot passeur, c'est drôle parce que je l'ai utilisé dans ma lettre de motivation. je trouvais que c'était... J'avais envie de trouver un mot qui soit juste et c'est pas évident. Et du coup, j'avais dit ça. Je me reconnais à fond, bon, je fais encore rien, mais... Mais ça me donne hyper envie, ça me parle beaucoup. Déjà parce qu'elle a une pratique assez proche de la mienne, que la marionnette, c'est un des éléments que je pourrais utiliser, même si j'en ai jamais fait, ça peut être des choses qui peuvent naître au fur et à mesure de mes expériences, et voilà. Ouais, ça me parle vraiment. Et puis voilà, comme elle dit, moi j'ai très envie, comme elle le dit, je crois qu'elle fait ça. Elle a un cabinet, enfin, tu t'es allée la voir, elle était dans un cabinet, genre elle reçoit des gens, tout seul.
Elle fait plus ouais, des stores, non. Pas tout seul, justement, elle fait que du groupe.
Ouais, c'est ça. En fait. Parce que, ouais. Et moi, mon envie, ça serait d'être dans des structures, en fait, de ce soit être dans un hôpital et d'aller d'intervenir, je sais pas, auprès d'enfants malades du cancer, d'aller dans les. Pour les personnes en fin de vie, pour accompagner des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Enfin, je crois que j'aimerais vraiment toucher... J'aimerais aussi beaucoup travailler dans le milieu carcéral. En fait, je me rends compte de plus en plus, et puis en discutant, qu'avec ce métier, je peux aller rencontrer tous les profils de personnes qui m'intriguent. Parce que le monde est rempli de personnes qui m'intriguent, mais parce que je peux aller découvrir le monde de cette manière-là aussi. Je trouve que c'est...
Il y a quelque chose qui était pas mal dans cette rencontre que j'ai faite avec Myriam, c'est que quand je l'ai eu au téléphone pour lui demander si on pouvait se rencontrer, elle m'a dit « Ah, ben ça tombe bien parce que je suis à un point de vue très critique sur l'art-thérapie. » Et je pense que c'est pas mal de te passer... donc la bande-son est un peu longue du coup, parce que j'ai pas osé couper, quoi, parce que tout était très riche.
Bien sûr.
Mais elle va nous parler un petit peu de son point de vue très critique sur cette pratique.
C'est que c'est pas sur l'art-thérapie que j'ai un point de vue très critique. C'est sur l'espèce de business de la thérapie aujourd'hui en 2020 où alors les gens vont pas bien, les gens ils ont un pouvoir d'achat aussi pour aller mieux et que la psychothérapie classique c'est plus très à la mode et que on voit fleurir tout un espèce de marché de nouveaux thérapeutes depuis 10 ans. Donc c'est chouette, ça fait de la diversité et plein d'approches possibles et différentes. Et en même temps, moi ça me pose question qu'en 10 ans, il y ait une cinquantaine d'écoles en France qui coûtent 5 000 euros de rembourser, avec des approches toutes très différentes. Et quand je dis que je suis critique, en fait, c'est juste qu'il y a du fantasme autour de l'art thérapie, notamment les gens qui veulent se reconvertir et qu'il y a quelque chose de « waouh, c'est trop génial ». Moi, dans ma vie, quand on me dit « tu fais quoi dans la vie ?», je dis « je suis art thérapeute », les gens ils me disent « ah ouais, trop cool ». Mais souvent, d'une, ils ne savent pas ce que c'est. Et on a une représentation de ce que ça pourrait être. Mais finalement, qui devient de plus en plus faussé parce qu'en fait, il y a 10 000 approches. Où là, il y a une école pas loin de Nantes qui apprend aux élèves à interpréter les dessins des enfants. Ça, je trouve ça super dangereux. Parce que ça ne doit pas être un support de lecture de la personne, en fait. Enfin, venir expliquer à une maman que le petit, il a fait la maison en haut à gauche, elle est toute noire, elle n'a pas de fenêtre, ça veut dire qu'il a envie de se suicider. Enfin, je fais des raccourcis, mais n'empêche qu'il y a des art-thérapeutes qui font des choses comme ça. Alors ouais, il y a plein de pensées, il y a plein de mouvements, et il y a un côté business qui est assez compliqué pour moi, en tout cas, parce que quand je me suis lancée, je me suis rendu compte que la diffusion et la communication, c'est un autre métier, et que c'est pas mon métier. Et que là, il va falloir que j'aille vendre du devis, en fait. Donc, tu te fais un site internet, tu te fais une petite brochure. Sur une centaine de brochures que tu as distribuées, il y en a 2-3 qui vont être lues, peut-être 1 ou 2 qui vont t'appeler pour un entretien. En fait, c'est que du réseau. Le réseau, ça veut dire aller se faire connaître dans le milieu, aller au vernissage, au machin, raconter sa vie et monter des conférences. Enfin, c'est un petit milieu, en fait, avec lequel j'ai du mal. Et je trouve qu'il n'y a pas du tout de solidarité, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'analyse de pratique. Moi, je me sens seule dans ma profession. Je n'ai pas une collègue à qui je peux raconter
ou échanger
sur une séance qui m'a un peu violentée ou que des fois, je sors de là, je me dis, ouais, dis donc, il y en a un, il m'a déposé ça en impro, je ne sais pas ce que je dois... Enfin, il y a des moments où on ne sait pas trop si... on n'est pas dans le secret professionnel, mais est-ce qu'il y a des choses qui sortent en séance? On ne sait pas si on doit absolument en parler à son médecin, parce qu'on considère que c'est peut-être grave. On ne sait pas gérer tout ce truc-là, quoi. Et bon, voilà. Et critique, parce que en fait, c'est... pas 2 fois par mois qu'on m'appelle parce que c'est des gens qui veulent se reconvertir, qui sont tombés sur mon site et qu'ils trouvent ça trop génial, machin, et que c'est des gens qui vont économiser plein d'argent pour pouvoir rentrer en formation d'art thérapeute, et que la réalité de terrain, c'est qu'il n'y a pas de taf, c'est qu'on n'en vit pas, que moi j'arrive à rentrer difficilement 500 euros par mois. À côté, on est obligé de bosser à côté, ou alors c'est juste qu'on a plein d'argent de côté. Et voilà, quand il y a une dame qui est mère de famille, qui économise depuis 3 ans parce qu'elle rêve de rentrer en formation d'art-thérapie, en fait, je vais pas lui dire c'est super génial. Alors oui, c'est un beau métier. J'ai pas envie de dire ça marche ou ça marche pas parce que c'est pas si binaire que ça. En tout cas, ça a du sens pour moi. De permettre des supports d'expression, de faire sortir des émotions aussi qui sont coincées par le biais de l'expression artistique. Après, on peut tomber de haut, en fait, si on met toutes ces billes là-dedans et qu'on sort de 2 ans d'école où, pour moi, les écoles, en plus, elles sont pas assez complètes. Enfin, est-ce qu'on est assez outillé vraiment pour être face à de la psychose en sortant de là-dedans ou... Enfin, c'est toutes ces questions que ça me pose, en fait. Comment ça fleurit, toutes ces écoles, quoi. Et tant qu'il y a de la demande, en fait, il y a de l'offre.
Ouais,
donc, ça continue. Donc, ça me pose quand même un peu question.
J'espère que ça t'a pas trop démoralisé.
Non, pas du tout.
Mais c'est hyper intéressant comme approche.
C'est hyper important de regarder tous les envers du décor. C'est hyper important de ne pas se voiler la face. Et je crois que ça me fait du bien de rencontrer, d'écouter. Et de rencontrer des personnes comme ça, en fait, qui sont passées par là et qui ont une réalité du terrain déjà. Et qui t'en parlent sans voile. Et je pense que c'est hyper important, même dans la vie, en fait. Et du coup, non, moi, ça me fait du bien, plutôt, parce que j'en suis assez consciente. Mais ça fait du bien de s'en rappeler. Et que je sais que je ne plonge pas non plus dans un endroit forcément évident, avec un chemin tout tracé. et même la formation que je fais dans l'école que je fais aujourd'hui, c'est les prémices de ma formation d'art-thérapie. Peut-être que ça ne sera pas dans cette école-là, l'art-thérapie. Enfin, voilà. Et je crois que je me laisse aussi cette liberté-là parce que faut que je sois à même de pouvoir critiquer et de me dire, OK, quelle est la place, quel est l'endroit et... Non, c'est merci de me faire écouter ça. Ça fait du bien, en fait.
C'est pour te remettre un peu les pieds sur terre. Hein.
Oui, merci, Rod. Je compte sur toi.
Non, je trouvais que c'était assez intéressant, même le paradoxe qu'elle évoque dans sa pratique, de dire, en gros, elle considère qu'individuellement, on ne peut pas soigner. Elle préfère soigner en groupe parce que ça crée une sorte de famille, d'équipe et tout. Et elle, à contrario, elle se sent seule dans sa pratique parce qu'elle n'a personne sur qui s'appuyer.
Et... Je vais la rencontrer, cette dame.
Ouais, Tu vas me dire. Oui, je te passerai son contact.
Mais c'est. Moi, ça me paraît assez évident de soigner en groupe. Après, bon, ça dépend le public que je vais viser, mais de créer une mini-société, donc de créer un petit groupe pour essayer de sortir les émotions dans un cadre où on est sécu et où c'est protéger l'espace d'un instant, ça permet quand même... Alors pour certaines personnes, ça peut ne pas se faire tout de suite, mais j'ai l'impression que ça peut donner de belles choses. Enfin, je pense que c'est hyper bien qu'elle dise qu'elle fait rien du tout, qu'elle est juste le passeur. Enfin, je trouve ça très noble.
Oui. Puis elle parlait aussi de moyens d'expression. Donc en fait, quand on est à un groupe, eh ben on n'est pas juste en face d'une personne qui est appelée justement art-thérapeute, mais on s'exprime devant un groupe. Et je trouve que surtout cette définition de dire que l'art-thérapie est un moyen de s'exprimer, parce que certes on a le langage, mais en fait il y a plein d'autres moyens de s'exprimer et d'exprimer des choses. Qu'on n'arrive pas à sortir par le langage, qu'on peut sortir autrement, et qu'en fait, ça peut nous faire du bien. Et je pense que, moi, j'ai déjà fait cette expérience-là sans être allée voir un art-thérapeute.
Oui.
Mais en ayant fait du théâtre, étant dans des groupes de théâtre, je me rends compte qu'il y a ça qui peut se créer, en fait, dans des groupes où il y a une confiance et où on t'amène à libérer quelque chose de spontané en toi, et ben en fait, tu sais que tu l'as déposé. Elle parle aussi de déposer quelque chose à un endroit. Oui. Et voilà. Donc,
oui, il y a une sorte de lâcher prise aussi dans cette pratique-là qui est intéressante.
Puis d'avoir le reflet sur le moment de « Ah, je suis capable ». Ça peut arriver aussi.
Ouais. Elle parlait justement, à contrario, des personnes qui recevaient individuellement. Et par exemple, elle m'avait donné l'exemple de... des art-thérapeutes qui, en fait, recevaient des personnes individuellement, par exemple, parce qu'elles étaient timides et tout ça, et ils les faisaient des mises en situation 1v1, tu vois. Et dit, ça, en fait, je comprends. Enfin, pour moi, c'est pas la solution, parce que justement, la timidité ou ce genre de problématique, c'est dans le groupe, c'est apprendre à connaître les gens. En fait, c'est pas dans une mise en situation que tu vas réussir à passer outre ta maladie, tu vois, genre dans la vie réelle.
Mais elle disait ça en critiquant la façon de faire de quelqu'un d'autre.
C'est ça, ouais.
D'accord.
Parce que elle, pour elle, c'est en fait arriver à lâcher prise dans un groupe, de créer une sorte de fondement de groupe, en fait, c'est hyper important, quoi. Genre, c'est par là que ça passe, le fait d'avoir un bien-être et dans un groupe, dans une sorte de famille, je me répète.
Puisque être en groupe, c'est un peu être en société. Enfin, je veux dire, on vit en société et on est des êtres sociaux. Et justement, trouver sa place dans un groupe. On peut avoir des places différentes et il n'y a pas forcément... toutes les places sont uniques et appartiennent à chacun. Il faut juste trouver celle dans laquelle on est confortable, en fait.
C'est ça. Oui, chacun la sienne.
Je voulais vous proposer une petite pause musicale, puisque dans l'art-thérapie, il y a plein de médiums. Là, on a évoqué vraiment que le théâtre et tout ça. Ouais. Enfin, surtout en majorité, le théâtre. Il y a aussi, comme tu l'as évoqué, la musique, la musicothérapie.
C'est ça. On dit musicothérapie, dramathérapie, danse-thérapie. Enfin, y a des milliards de mots.
Ouais, on assemble un peu les deux. Et puis
ça colle un peu. Ouais, c'est ça.
Et j'avais envie de vous faire écouter un peu de musique classique du Chopin. Et pourquoi ce choix, vous allez me dire. Et je l'ai dit juste avant à Émilie, avant l'émission, parce que, en fait, l'art-thérapie, ça existe aussi sur les animaux. Il y a des... Il y a des éleveurs en fait qui passent de la musique classique à des vaches pour les apaiser et les rendre calmes.
Quoi cette viande calme. Qui coûte extrêmement cher. C'est là dont tu vas nous.
Oui, c'est là. Elle coûte cher parce qu'elle est apaisée et détendue.
Ils leur font des massages.
Ouais. C'est ça. Donc tout de suite un petit morceau de Chopin Nocturne.
Allez, bonne écoute les vaches.
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans l'émission La Cabane. Est-ce que ça vous a apaisé? Moi, ça m'apaise beaucoup.
Oh oui, c'est marrant que tu dises ça parce que Nocturne de Chopin, c'est une musique qui a été écrite dans l'époque romantique. Et c'est pile poil l'époque où on cherche à faire ressortir les émotions en musique, en art et en littérature. Et je trouve que c'est tout à fait propice.
Mais non, mais j'ai fait exprès. Hein, enfin...
Et c'est marrant parce que j'ai remis le nez dedans, du coup, cette semaine, on a revu tous les mouvements et j'ai triché.
Et du coup, ça,
j'ai
ça
ouvert la page pour
regarder. Non, mais je trouve que, en vrai, c'est un point de vue personnel, mais j'écoute pas trop de musique classique. Mais genre, à chaque fois que je me dis, bah, vas-y, j'ai envie de me poser et tout, il y a que. Je tape Chopin sur Internet et je suis là en mode.
Bah moi, c'est le baroque, parce qu'on a découvert ça ensemble, Harold et Ariane, lors de notre formation, parce qu'on a eu un exercice d'opéra qui s'appelle Platée, en scénographie, puisque nous sommes tous les trois scénographes, je le rappelle. Du coup, j'ai découvert la musique baroque, et c'est vrai que c'est assez magique, cette musique.
C'est marrant, des fois, tu as des trucs où tu as des a priori, tu les écoutes et tu te dis « Non, mais c'est trop bien !»
En fait, c'est ouf.
En fait, c'est trop bien. Ouais.
Pas mal,
mais
le
c'est
baroque.
C'est fou, parce qu'il y a plein de sons de notre époque qui sont hyper influencés par le baroque.
Ah ouais. Ça, c'est sûr.
C'est impressionnant.
Bon, ça, c'est un autre sujet.
Ah oui, tout à fait.
Dans la bibliothèque de Riri. Lecture. L'art comme thérapie ou l'art pour soigner et même réparer. Cela me fait penser au livre du japonais Junshiro Tanizaki, L'éloge de l'ombre, dans lequel il parle justement d'un art ancestral japonais, celui de réparer les objets à la feuillure d'or. C'est le kintsugi. Il en parle comme ceci. Lorsque les artisans d'autrefois enduisaient de laque ces objets, lorsqu'ils y traçaient des dessins à la poudre d'or, ils avaient nécessairement en tête l'image de quelques chambres ténébreuses et visaient donc, sans nul doute, l'effet à obtenir dans une lumière indigente. S'ils usaient de dorures à profusion, on peut présumer qu'ils tenaient compte de la manière dont elles se détacheraient sur l'obscurité ambiante et de la mesure dans laquelle elles réfléchiraient la lumière des lampes. Car une laque décorée à la poudre d'or n'est pas faite pour être embrassée d'un seul coup d'œil dans un endroit lumineux, mais pour être devinée dans un lieu obscur, dans une lueur diffuse, qui, par instant, en révèle l'un ou l'autre détail, de telle sorte que la majeure partie de son décor somptueux, constamment caché dans l'ombre, il suscite des résonances inexprimables. On peut voir dans cet artisanat une manière d'appréhender notre monde, faire des failles une richesse. Et si on revient à l'art, l'art pour soigner, ne serait-ce pas l'art qui, lorsqu'il soigne, rend lumineuses les failles et les cicatrices des humains? Alors, j'ai fait une petite introduction, une petite conclusion, mais j'ai l'extrait qui parle de, justement, l'or, enfin, l'or, voilà, les feuilles d'or sur la laque dans l'ombre et comment ces artisans japonais, en fait, travaillaient avec l'idée que ces objets ne seraient pas vus dans la lumière, mais dans l'ombre. Ouais. Et donc, c'est un artisanat japonais qui est, je pense, quand même assez à la mode, on va dire, en ce moment, le kintsugi, qu'on voit beaucoup, ou des bols, bols, où c'est souvent des bols, des vases qui sont ébréchés, cassés, sont réparés avec la feuille d'or, et donc l'ébréchure, en fait, devient presque un parement. Et on peut en faire une extrapolation un peu philosophique autour de dire faisons une force de nos faiblesses, en fait.
Mais les failles lumineuses, c'est hyper bien dit, c'est une belle...
J'avais un peu cette idée qu'en art-thérapie, ou en tous les cas l'art pour réparer, on utilise nos failles, nos cicatrices, nos faiblesses, en fait, dans un moyen d'expression. Et en fait, ça va donner une expression qui est d'autant plus forte et qui peut être d'autant plus transmise à l'autre. Et puis, je rebondis aussi un petit peu sur, justement, l'artisanat japonais, en pensant à une exposition qui a eu lieu au lieu unique il y a quelque temps, qui s'appelle Komorebi, qui était sur l'art brut japonais. Mmh. Et donc, parce qu'on n'a pas du tout parlé d'art brut, alors que je pense que justement...
C'est vrai que c'est étonnant qu'on n'en ait pas parlé dans une émission sur l'art thérapie. Mais...
Bah, moi, j'ai fait un peu exprès de pas en parler.
Et ben, voilà.
Mais ouais, j'avais pensé à ça, en tout cas. C'est vrai que dans cette exposition, c'était des personnes qui étaient vraiment atteintes de maladies mentales, qui présentaient des œuvres. Mais peut-être que tu... Je ne sais pas si pour toi, pourquoi ne pas avoir parlé de l'art brut ?
C'était parce que... Alors, parce que je... Peut-être parce que c'est encore un sujet que je ne... J'ose pas trop m'aventurer quand je ne sais pas trop. Je veux dire, je ne veux pas dire de bêtises. Mais je dirais que bah, déjà, l'art brut, c'est un débat. Parce que considérer une œuvre faite par quelqu'un qui n'avait pas l'ambition d'en faire de l'art, la considérer comme de l'art, c'est quelque chose d'assez fort. Et moi, je ne suis pas certaine de... Enfin, je ne sais pas. C'est difficile de vous l'évoquer. Mais du coup, je crois que ouais, l'art brut, c'est une chose. L'art thérapeute, c'en est vraiment une autre. Et je ne crois pas que... Bah, justement, ça n'a pas d'objectif. On ne produit rien en art thérapie. Et c'est en aucun cas une œuvre d'art ce qui en ressort. Et ce n'est pas... Je comprends qu'on puisse en faire un lien, qu'on ait envie de rebondir et de voilà, mais il me semble que c'est deux choses très différentes et d'autant plus pour les personnes qui passent par le médium de l'art thérapie pour respecter ça, je crois que ça serait difficile de dire que c'est de l'art. Enfin, c'est faut leur laisser leur bulle peut-être un peu.
Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que dans l'art brut, du coup, il y a vraiment le statut d'œuvre d'art qui est donné à des productions qui ne visaient pas comme œuvre d'art. Et donc en fait, ça part de l'art-thérapie ou ça part d'une pratique artistique peut-être plutôt thérapeutique au départ qui, en fait, finalement devient considérée comme une œuvre. Et du coup, là, c'est aussi la question du marché de l'art aussi, quelque part. Voilà. Mais là, on parle, parce que j'ai parlé d'une exposition, donc on parle de production plastique, mais aussi dans le théâtre, on voit des troupes professionnelles qui sont formées aussi avec des personnes qui ont des troubles mentaux ou des troubles physiques, mais c'est quand même des troupes professionnels.
Ouais. Et il n'y a pas d'objectif thérapeutique.
Voilà.
C'est leur métier.
Voilà.
On a un peu balayé ce qu'on connaît, en tout cas, notre vision qu'on a de l'art-thérapie. J'espère que toi, ça t'a donné envie de continuer quand t'as pas fatigué avec ça.
Non, ça m'a donné envie de continuer à fond. Et je vous remercie de d'avoir mis sur mon chemin cette petite expérience, parce que c'est très... Il y a plein de choses à prendre, c'est génial.
Oui, ça donne... Est-ce que ça te donne des pistes de réflexion, ou il y a des choses que tu aurais envie de réfléchir,
poser, ça me fait ne pas oublier qu'il faut toujours... Enfin, c'est cool de foncer, mais c'est bien de voir qu'est-ce qui peut se passer aussi derrière, et d'être attentif, et puis d'être... de savoir nuancer. Il n'y a pas qu'une chose, en fait, il n'y a pas qu'une seule chose. Il y a un équilibre à trouver.
Et nous, on s'en est bien rendu compte là en apprenant de cette pratique qu'on connaissait pas du tout, même si on est praticien d'art, on pourrait dire ça comme ça. Et ben on se rend compte que c'est aussi vaste que la pratique artistique en elle-même.
C'est incroyable.
Donc il y a mille positionnements, mille manières de penser, mille protocoles, mille médiums, plein de choses quoi.
J'avais envie de vous partager une petite phrase juste pour terminer.
Ah ben ça serait
avec
parfait.
Plaisir. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que c'est l'art-thérapie. C'est juste une phrase que j'ai lue tout à l'heure et qui m'a touchée. C'est Henri Matisse qui disait ça. Je veux un art d'équilibre, de pureté, qui n'inquiète ni ne trouble. Je veux que l'homme fatigué, surmené, éreinté, goûte devant ma peinture le calme et le repos. Voilà. Et même s'il n'avait peut-être pas l'ambition de parler de quoi que ce soit, en tout cas pas d'art thérapie, je trouve que c'est hyper... Ça me parle beaucoup.
Merci Henri.
Merci Henri.
Merci Henri.
Merci Romane, merci Ariane d'être venue encore une fois dans notre petite cabane.
Merci les copains.
Nous allons devoir rendre l'antenne, comme on dit.
C'est ça.
Retrouvez-nous tous les derniers mardis du mois, entre 13h et 14h. Sur 92 FM, vous pouvez aussi nous retrouver sur des réseaux sociaux comme Instagram, ou Facebook.
Et également en podcast sur le site internet de prune.net.
Voilà. N'hésitez pas et surtout passez une excellente bonne début d'année. Ça ne se dit pas, mais c'est comme ça.
Mais bonne journée quand même.
Bonne journée.
Allez, salut.
Vous venez d'écouter l'émission culturelle La Cabane. Retrouvez nos deux acolytes, accompagnés d'un nouvel invité, chaque dernier mardi du mois, de 13h à 14h, sur Prune 92 FM. La Cabane, l'émission où l'on parle d'art sans complexe.
C'est toi qui as les clés ?
Non, cette fois, c'est pas moi qui ai les clés.
Ah oui, elles sont là.